Leçon numéro 89. La bonne nouvelle. Assalamu alaikum, amis qui êtes à l'écoute. Nous vous saluons au nom de Dieu, le Seigneur de paix, qui veut que chacun comprenne et se soumette au chemin de la justice qu'il a établi et qu'il ait pour toujours la paix véritable avec lui. Nous sommes heureux de pouvoir revenir aujourd'hui vous présenter votre émission « Le chemin de la justice ». Dans notre étude du livre de l'Injile, nous avons entendu l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses disciples après sa résurrection. Il leur a dit,
Marc chapitre 16 verset 15, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. »
Et après que Jésus a été enlevé au ciel, un de ses disciples nommé Paul a écrit,
Romains chapitre 1 verset 1 à 2, « Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu. Cette bonne nouvelle, Dieu l'avait promise auparavant par ses prophètes dans les saintes Écritures. Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En effet, dans la bonne nouvelle, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi.
La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Quelle est donc cette bonne nouvelle dont la parole de Dieu nous parle sans arrêt? Aujourd'hui, à l'aide de l'Esprit de Dieu, nous aimerions vous apporter quelques éclaircissements concernant cette bonne nouvelle dont nous avons entendu parler tout au long de notre étude des Saintes Écritures. Mais avant de parler de la bonne nouvelle, nous devons nous rappeler la mauvaise nouvelle qui est venue en premier. Où cette mauvaise nouvelle a-t-elle eu lieu? Vous savez tous qu'au commencement, après avoir créé les cieux et la terre, Dieu a créé Adam et Ève et les a placés dans le jardin d'Éden, le paradis terrestre. Dieu les a créés afin qu'ils puissent le connaître, l'aimer et le glorifier pour toujours. Mais pour les mettre à l'épreuve, Dieu a dit à Adam.
Genèse chapitre 1 verset 16 à 17. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Hélas, la mauvaise nouvelle, c'est qu'Adam et Ève ont écouté le serpent, c'est-à-dire le diable, qui les a tentés pour qu'ils mangent du fruit de l'arbre. À cause de leur transgression, le péché, les problèmes et la mort sont entrés dans le monde, contaminant Adam et Ève et tous leurs descendants, car, comme vous le savez, une épidémie ne se limite pas à celui qui en est à l'origine. Écoutez la mauvaise nouvelle que la parole de Dieu proclame. Elle dit,
Hébreux chapitre 9, verset 27, Hébreux chapitre 10, verset 31, et Jude chapitre 14, verset 15. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Voici que le Seigneur est venu pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'on profère contre lui les pécheurs impies. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant.
C'est la mauvaise nouvelle. Nous sommes tous pécheurs et nous devons rendre compte de nos actes à Dieu. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que déjà dans le jardin d'Éden, Dieu qui est plein de miséricorde a annoncé qu'un jour il enverra dans le monde quelqu'un qui ne sera pas souillé par le péché, né d'une vierge. Cette personne sainte, ce rédempteur juste, se donnera lui-même en sacrifice pour payer pour les péchés d'Adam et de ses descendants. La punition que nous méritons à cause de nos péchés tombera sur lui. C'est la bonne nouvelle que Dieu a annoncée le jour où Adam et Ève ont péché. Après cela, Dieu a utilisé des hommes qu'il avait choisis pour annoncer la venue de ce Rédempteur, c'est-à-dire du Messie. Chacun de ses prophètes avait quelque chose à annoncer au sujet de ce Messie, afin qu'au moment de sa venue, tout le monde puisse savoir qu'il était celui que Dieu avait choisi. Par exemple, le prophète Ésaïe, qui a précédé le Messie de 700 ans, a prophétisé sur les circonstances de la naissance du Messie. Il a dit,
Matthieu chapitre 1 verset 23 et Isaïe chapitre 7 verset 14. Voici que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous.
Un autre prophète nommé Michée a prophétisé que le Messie viendra du ciel et qu'il naîtra dans la petite ville de Bethléem. Et le Messie est né précisément à cet endroit. Pourtant, quand Michée a prophétisé cela, c'était des centaines d'années avant l'époque du Messie. Mais les prophètes n'ont pas seulement annoncé la naissance du Messie. Ils ont aussi prophétisé comment il allait souffrir et mourir pour les pécheurs. Par exemple, le prophète David et le prophète Ésaïe ont écrit que les gens allaient mépriser le Messie, cracher sur lui, le maltraiter, le frapper, lui transpercer les mains et les pieds et le tuer. Mais tout cela faisait partie du plan de Dieu pour sauver les enfants d'Adam du châtiment qui les attendait à cause de leurs péchés. Et le prophète David n'a pas seulement annoncé la mort du Messie. Il a également prédit que Dieu ne permettra pas que son corps reste dans la tombe, mais qu'il le ressuscitera d'entre les morts pour confirmer la validité du salut que le Messie a apporté aux enfants d'Adam. Concernant la naissance du Messie, il y a très peu de discussions, mais concernant sa mort et sa résurrection, beaucoup de personnes y trouvent un obstacle. Elles disent: comment Dieu aurait-il pu regarder et rester à ne rien faire alors que les hommes humiliaient le Messie qu'il avait envoyé? Mais ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que c'est Dieu lui-même qui a prévu dans son plan que le Messie doit souffrir ainsi pour nos péchés. C'est ce que les prophètes proclament en disant.
Ésaïe chapitre 53 verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance.
Ne croyons-nous pas aux prophètes? Nous disons que nous y croyons. Alors, si nous croyons vraiment aux prophètes, nous devons aussi croire à ce qu'ils ont écrit. Nous devons nous rappeler que les prophètes n'ont pas parlé de leur propre volonté, mais que Dieu a mis dans leur esprit ce qu'ils devaient dire. Donc, si nous refusons de croire ces prophètes, qui rejetons-nous en fait? C'est Dieu que nous rejetons, parce que c'est lui qui a inspiré les prophètes à prophétiser que le Messie allait mourir en sacrifice qui ôte le péché. C'est parce que Dieu aime le monde et veut que personne ne périsse dans le péché qu'il avait prévu la mort du Messie. Il était nécessaire qu'un homme juste meure pour les injustes pour les sauver du jugement de Dieu. C'est ce que les sacrifices de moutons et de chèvres symbolisaient dans les temps anciens. Jésus-Christ, né d'une vierge par la puissance de Dieu, est le sacrifice parfait et final que Dieu a donné. Comme nous l'entendons souvent, on n'a pas besoin de dessiner un homme pour décrire comment il est s'il y en a un debout devant nous. De même, puisque nous avons maintenant un sacrifice permanent et parfait pour les péchés, nous n'avons pas besoin de nous fatiguer à continuer d'offrir des sacrifices temporaires et imparfaits. Vous rappelez-vous ce que le Seigneur Jésus a dit sur la croix juste avant de mourir? Il a dit,
Jean chapitre 19 verset 30. Tout est accompli.
Il a réglé la dette causée par votre péché une fois pour toutes. Il ne reste qu'une chose à faire pour vous, y croire. Comme nous l'avons lu aujourd'hui au début de notre étude, les Écritures disent que la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Malheureusement, beaucoup de gens refusent de croire en lui en disant que la mort et la résurrection de Jésus n'est qu'une histoire fabriquée. La plupart des gens ne savent pas qui est vraiment Jésus. Pourtant, quand nous étudions l'Injile, nous découvrons que tout ce que les prophètes ont annoncé au sujet du Messie par rapport à sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection a été accompli juste dans les détails par Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Injile nous déclare que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 3 à 4. Tout s'est passé exactement comme les prophètes l'avaient prédit. Ceux qui haïssaient Jésus se sont moqués de lui, l'ont torturé et l'ont tué, et ceux qui l'aimaient l'ont enterré. Mais la mort ne pouvait pas le garder dans la tombe. Et nous avons vu que le troisième jour, quatre femmes se sont levées à l'aube et sont allées à la tombe où on avait enterré Jésus. Elles ont trouvé la tombe ouverte et vide. D'autres disciples sont aussi allés à la tombe, mais ils n'ont pas vu le corps du Seigneur. Peu de temps après, le ressuscité a commencé à se montrer aux disciples pendant une période de 40 jours. C'est vrai, le Messie avait vaincu la mort. La résurrection de Jésus prouve que Dieu a accepté son sacrifice comme paiement de la dette résultant du péché des enfants d'Adam, afin que quiconque croit en lui puisse avoir part à la vie éternelle qu'il a apportée. C'est cela la bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour enlever vos péchés, et il est sorti de la tombe le troisième jour pour vous donner la vie éternelle. Et le but de cette bonne nouvelle, c'est de sauver tous ceux qui y croient. Par conséquent, la question à laquelle vous devez répondre aujourd'hui est: est-ce que vous y croyez? La parole de Dieu dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. Si vous entendez la bonne nouvelle, n'endurcissez pas vos cœurs. Croyez. Le salut n'est pas la conséquence des œuvres que nous faisons, car personne ne peut faire assez d'œuvres pour mériter le paradis. Dieu ne va jamais vous vendre un si grand salut. Il veut vous le donner. Il n'y a qu'un moyen d'entrer dans le paradis de Dieu. Vous devez d'abord reconnaître que vous êtes un pécheur et que vous n'avez pas la force pour plaire à Dieu. Puis, vous devez croire que Jésus est le Sauveur que Dieu a envoyé pour mourir sur la croix à votre place et enlever vos péchés, pour ressusciter des morts et vous donner la vie éternelle. Si vous croyez cette bonne nouvelle, vous pouvez être sûr que vous serez emmené au paradis, car la parole de Dieu dit.
1 Jean chapitre 5 verset 13. Cela je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
Écoutez le témoignage d'un homme qui a trouvé la paix avec Dieu en croyant à la bonne nouvelle. Moi qui parle avec vous aujourd'hui, quant à moi, je peux vous dire qu'au début, je ne savais pas où j'irais après ma mort. Je faisais mes 5 prières quotidiennes. Et j'observais le jeûne annuel, mais je ne savais toujours pas où j'irai après ma mort. J'ai posé des questions à plusieurs personnes autour de moi, mais je n'ai pas reçu de réponse claire. Mais quand j'ai étudié l'Injile, j'ai découvert que je pouvais vraiment savoir où j'irai après la mort, car Jésus le Messie lui-même a dit dans l'Injile.
Jean chapitre 5 verset 20. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Il a dit aussi,
Jean chapitre 11 verset 25, « Moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. »
Ainsi j'ai cru au Messie que Dieu avait promis longtemps auparavant dans le jardin d'Éden, et sur qui tous les prophètes ont prophétisé en disant.
Actes chapitre 10, verset 43. Que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés.
J'ai placé tout mon espoir sur le Seigneur Jésus-Christ. À partir de ce moment jusqu'à maintenant, Dieu a apporté de la paix à ma conscience. Je n'ai plus une conscience troublée. Mon avenir est merveilleusement clair à cause de l'œuvre de Jésus sur la croix. Dans ma vie de disciple de Christ, les problèmes et les souffrances sont nombreux parce que ma foi ne s'accorde pas avec les opinions de mes parents et de mes amis. Mais j'ai la foi. La paix qui vient de Dieu remplit mon cœur et mon esprit. Et Jésus qui me l'a donné dit.
Actes chapitre 10 verset 43 et Jean chapitre 14 verset 27. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas.
Chers amis, ce que Dieu a fait pour moi et à moi, il peut le faire pour chacun de vous. Il demande une chose de vous. Que vous croyez en lui de tout votre cœur, il fera le reste, car le Seigneur Jésus lui-même a dit.
Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.
Est-ce que vous êtes fatigué et chargé à cause de vos péchés? Est-ce que vous désirez trouver le repos pour vos âmes? Si vous croyez la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Messie, Dieu vous pardonnera vos péchés. Il vous déclarera juste et il écrira votre nom dans le livre de vie. De plus, si vous croyez à la bonne nouvelle, Dieu enverra l'Esprit de Dieu dans votre cœur comme le signe que vous lui appartenez. Et ainsi, le Saint-Esprit qui vit en vous changera votre vie et votre mode de vie, car les Écritures disent.
2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Donc, amis qui écoutez, qui que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit votre situation, que vous soyez un homme ou une femme, vieux ou jeune, le Seigneur Jésus-Christ peut vous donner une nouvelle vie, à condition de croire la bonne nouvelle. Nous vous remercions d'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et réfléchissez bien à ce que les Saintes Écritures disent de ceux qui ont placé leur confiance dans la bonne nouvelle de Dieu. Elles disent,
Dieu nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance la mort et a mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par la bonne nouvelle.